Un jour, Jésus écrivait par terre. Il écrivait par terre. Et pendant qu'il écrivait par terre, il se passait quelque chose. J'aimerais juste qu'on prenne le temps de s'arrêter, comme écrire par terre. Hein? Avant qu'on entre vraiment dans la parole, avant qu'on entre dans la présence de Dieu. Merci Seigneur, merci pour cet instant maintenant. Pensez à Jésus qui écrit par terre. Pensez à Jésus qui est en train de faire agir la présence de Dieu. Pensez à Jésus qui attend que dans les lieux spirituels, il se passe quelque chose. En fait, Jésus, il écrit par terre. Mais c'est ce que tu vois. Mais derrière ça, il se passe quelque chose. Il écrit sur terre, mais il est en train de connecter, d'attendre, de faire agir la présence de Dieu. C'est ce que Jésus fait. Et jusqu'à ce qu'à un moment donné, la voix arrive, les pensées de Dieu arrivent. Ce que Dieu veut faire arrive, se montre. Et on commence à voir ce que le Seigneur va faire. Ce matin, je vais parler de la voix de Dieu. Quel mécanisme il y a dans la parole pour que quelqu'un comme toi, comme moi, comme Jésus sur la terre, entende la voix de Dieu? Comment ça se fait que quelqu'un puisse entendre la voix de Dieu? Et où se trouve dans la parole le mécanisme pour trouver comment on fait pour entendre le Seigneur? Je vais prier pour que je sois un tout petit peu plus fluide parce que je sens que c'est un peu... On va aller dans le livre d'Hébreux et le livre d'Hébreux est tellement intense, tellement costaud. C'est vraiment quelque chose qui est fait pour les personnes qui sont mûres dans la foi. Ceux qui connaissent la parole, ceux qui connaissent la loi. Et c'est vraiment à eux que c'est adressé. Donc, on va aller dans le livre d'Hébreux, mais je vais juste encore prier. Père, moi, je te loue pour ton amour. Je te loue parce que tu as donné Jésus-Christ, parce que tu l'as envoyé. Tu l'as envoyé pour qu'il soit ta parole sur la terre. Mais merci parce que tu l'as envoyé aussi pour que je puisse la voir dans mon cœur, puisqu'il est là. Seigneur, je prie maintenant. Je prie maintenant que je sois clair. Je prie maintenant que ton esprit grave la parole dans les cœurs des gens. Alors que je parle, Seigneur, je demande à être simple. Je demande que ce soit conduit par ton esprit. Je demande que le Seigneur écrit maintenant par terre ici. Je demande que ce soit maintenant que Jésus écrit par terre et que l'esprit du Seigneur se meut au milieu de nous. Au milieu de nous. Seigneur, j'ai besoin de toi et je compte sur toi. Merci Jésus. Merci Jésus. Amen. Amen. Je vais lire dans le livre d'Hébreux, au Hébreux 9, à partir du verset 8 jusqu'au verset 14. Hébreux 9, verset 8 jusqu'au verset 14. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert, tant que le premier tabernacle subsistait. C'est une figure pour le temps actuel où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte et qui, avec les aliments, des boissons et les diverses ablutions, étaient des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Mais Christ est venu comme un souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et le cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant? Le but du Seigneur, c'est que nous servions le Dieu vivant. Pour cela, il donne sa voix. Sa voix est en nous et nous sommes conduits par l'Esprit. C'est quelque chose qui est vraiment étonnant, parce que je vais partir d'assez loin. Je pars de très, 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 très loin. Je vais parler d'Abraham. Dieu dit à Abraham, j'établirai mon alliance avec toi. Il dit, j'établirai. Ça veut dire que ce n'est pas encore maintenant, mais j'établirai mon alliance avec toi. Et au bout d'un moment, la loi a été donnée. Avec la loi, avant que la loi a été donnée, il y avait Melchisédek qui s'est incarné comme type et ombre de Christ. Et ce Melchisédek, c'est un prêtre du Dieu très haut et il fit apporter du pain et du vin, qui est le symbole du Nouveau Testament, de la Nouvelle Alliance. Mais ce qu'il faut remarquer par rapport à ça, c'est que c'est un sacrificateur. C'est un sacrificateur du Dieu très haut. Et bien plus tard, le peuple de Dieu, qui est vraiment les descendants d'Abraham, Dieu leur dit, vous serez prisonniers, asservis pendant 400 ans. Et après les 430 ans, ils sont sortis et ils sont entrés dans la terre promise. Mais avant tout cela, il va sur la montagne. La montagne, Moïse va sur la montagne et reçoit en fait les indications de Dieu. C'est là Dieu donne la loi et Dieu montre le tabernacle. Donc, il y a un tabernacle terrestre comme ce qui a été vécu par les enfants d'Israël. Et il y a aussi un tabernacle qui est le vrai modèle qui est dans le ciel. Christ est venu comme un souverain sacrificateur. Souverain sacrificateur qui y a sacrifié dans les lieux célestes. Moïse a donné le tabernacle terrestre. Et ce qu'il y a en fait dans cet Hébreu 9, c'est que le sacrifice qui se passait dans le tabernacle, il dit, ne pouvait pas rendre parfait. Il dit, c'est une figure des temps actuels et l'on pouvait présenter des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience. En fait, tout ce qui s'est passé dans le tabernacle pouvait purifier quelque chose pour un temps, mais comme ce qui est écrit ici, sanctifie, procure la pureté de la chair pour un temps seulement. Alors que le but de Dieu, c'est de purifier notre conscience. Le but de Dieu, c'est de pouvoir parler à travers notre conscience. Et ce qu'il y a, c'est que Dieu ne pouvait pas atteindre notre conscience parce que tout ce qui se passait dans le tabernacle, c'était juste pour la purification de la chair. Le but de Dieu, je vais lire directement aussi. Allez voir dans Romains 9. Romains 9, je dis la vérité en Christ, je ne mens point, car ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. Tout ce qui s'est passé dans le tabernacle ne pouvait pas purifier. ne pouvait pas renouveler, ne pouvait pas avoir une action divine pour restaurer l'homme intérieur. En fait, il faisait des rituels, mais ça n'avait pas d'influence sur leur relation avec Dieu. Ils pouvaient pas avoir la paix avec Dieu avec tout ce qui s'est passé. Ça purifiait juste, ça leur faisait du bien. Ça faisait du bien à la chair. Ça faisait du bien parce que c'était des sacrifices pour purifier juste notre être intérieur. Mais notre être intérieur n'est pas purifié. L'être extérieur, la chair, je veux dire, mais l'être intérieur n'est pas purifié. Mais ce qui s'est passé, c'est que Christ est venu. Et Christ, quand il est venu avec son sang. Et son sang est là pour purifier toute chose. Il purifie la vie de quelqu'un. Et c'est à travers son sang qu'il purifie la conscience. Et tout d'un coup, à partir de la venue de Christ, les consciences, on pouvait s'approcher à nouveau de Dieu. On pouvait avoir une relation personnelle avec Dieu. On pouvait avoir quelque chose qui est de l'ordre de la volonté de Dieu. Donc la loi a été donnée à Moïse. Mais par Jésus-Christ est venue la grâce et la vérité. La loi est venue et la loi n'a pas pu purifier notre conscience. Alors que selon Romains 9, dit Dieu parle dans notre conscience. Je dis la vérité en Christ, je ne mens point, ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. Qui témoigne à l'intérieur de moi? C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui témoigne à l'intérieur de moi. Et comment j'entends la voix? J'entends la voix dans ma conscience. Ce qui fait que ma conscience et le Saint-Esprit se mettent ensemble. Le haut-parleur qui amène la voix dans mon entendement, c'est ma conscience. Mais celui qui parle, c'est le Saint-Esprit. C'est-à-dire que le Saint-Esprit et ma conscience se mettent ensemble pour que j'entende la voix de Dieu. En fait, souvent, on se demande, est-ce que c'est moi qui parle? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui parle? Est-ce que c'est la parole qui parle? Mais de toute façon, la personne qui parle vient dans ma conscience. Et c'est par ma conscience que j'entends la voix de Dieu. Ça peut être moi. Moi aussi, je parle. Moi aussi, j'ai des pensées. Mais à partir du moment où c'est sanctifié, moi, ma vie est plongée et immergée en Christ. Je commence à être baptisé en Christ. Là, ma conscience est immergée en Christ. Et ma conscience est renouvelée. Renouvelée pour pouvoir entendre de Dieu. Christ, donc, s'est débarrassé du péché et a annulé toute chose qui rendait notre conscience prisonnier. Il a annulé les effets de tout ce qui est péché et ce qui nous restait à faire, c'est d'accepter le sacrifice. Le sang de Christ qui a été fait dans le tabernacle éternel purifie nos consciences. C'est ce qui est dit dans Hébreux 9. Dans Romains 8, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous, nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Le but de Dieu, c'est que on sert le Seigneur. Le but de Dieu, c'est que en servant le Seigneur, il nous parle et notre conscience entend. Le but de Dieu, c'est de remplir notre conscience du Saint-Esprit et la voix que nous entendons, c'est la voix de Dieu. Dans Hébreux 3 et 4, c'est dit trois fois en fait, Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Comment on endurcit notre cœur? Comment notre cœur devient dur? C'est quand la voix nous parle et qu'on n'obéit pas à cette voix. Quand la voix de Dieu se manifeste, à un moment donné, soit tu obéis, soit tu l'éteins. Un jour, j'étais sur une autoroute. Je conduisais. J'étais avec un collègue de travail. Peut-être que je l'ai déjà dit ici. Mais j'étais avec un collègue de travail. On est allé faire une formation sur une machine. Et on conduisait, on discutait. On discutait les deux et tout d'un coup, j'entends dans mon esprit, dépasse le camion. Dépasse le camion. On continue la conversation, mais je mets le clignoteur, j'accélère et je dépasse le camion. À peine j'ai dépassé le camion, à peine je me suis décalé sur la gauche, sur le camion qui est devant nous, il y a une pioche qui tombe et qui fait comme ça, vous, 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 comme le film Robin des Bois. Moi, je me suis juste décalé et tout d'un coup, la pioche passe à côté de nous et mon collègue il me dit, waouh, la chance qu'on a eue. Et je lui dis, écoute, tu sais, on a beaucoup de chance, oui, c'est vrai, mais j'ai un Dieu, c'est ça que je lui ai dit. Des fois, la voix du Seigneur vient dans notre esprit, vient dans notre homme intérieur. Et quand notre homme intérieur est conduit, est calé, et ensemble avec le Saint-Esprit, la voix résonne dans notre cœur et l'entendement vient. Et c'est là qu'on comprend. Je peux résister à cela. Je peux faire en sorte que ça... Je dis, écoute, je vais pas dépasser. Je peux tout à fait faire ça. Mais ce que dit la parole, c'est que si vous endurcissez votre cœur, n'endurcissez pas votre cœur, c'est ça. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. La voix arrive dans mon homme intérieur. Comment on dit ça pour les dames? Je ne sais pas. Je pense que c'est la même chose. Notre être intérieur. Où se trouve notre être intérieur? Où se trouve notre être intérieur? Notre être intérieur, il est où? Il est à l'intérieur. Il est aussi à l'intérieur, mais il est aussi partout. C'est quand on parle de cet homme intérieur, on parle de l'esprit. On parle de l'esprit qui est dans l'homme, l'esprit de l'homme. Quand on parle de l'esprit de l'homme, on parle du souffle de Dieu. Parce que Dieu a soufflé. Dieu a soufflé et nous sommes devenus vivants. Et quand on parle de cela, on peut le localiser quelque part. Il est où? C'est l'esprit de l'homme à l'intérieur de nous. C'est ton esprit, c'est toi, c'est le souffle. Mais comment on peut dire que la voix de l'esprit peut être un avec ma voix à moi? La voix de l'esprit peut être un avec mon esprit en moi. Comment on peut dire cela? On peut dire cela parce que c'est le même mot qui est utilisé. Quand on parle de la vie de l'homme, du souffle de l'homme, de l'homme intérieur, quand on parle de l'esprit de l'homme, on parle de la vie de Dieu. Et le mot qui est utilisé en grec, c'est pneuma. En hébreu, il y a plusieurs, mais il y en a un qui est plus précis, c'est le ruach. Et ça parle du esprit ou souffle ou respiration, vent, cœur, haleine, animé, être consterné. Mais en grec, c'est pneuma. Et ça veut dire, en fait, le souffle de Dieu, la vie de Dieu. Et comment on peut travailler la vie de Dieu en nous? Comment on peut faire en sorte que notre être intérieur soit exercé? Comment on exerce la vie de Dieu? Pour que notre être soit réveillé, que notre conscience soit renouvelée, je dois faire de la place en moi pour écouter mon âme intérieure, pour écouter la voix de ma conscience, la voix du Saint-Esprit qui est en moi. Donc, je dois faire de la place. Et dans 1 Timothée 4, c'est écrit « Exerce-toi à la piété ». Il dit « Repousse les contes profanes et absurdes, mais exerce-toi à la piété ». S'exercer à la piété, c'est s'exercer à la vie de Dieu. S'exercer à la piété, c'est s'exercer avec le souffle de Dieu. S'exercer à la piété, c'est faire en sorte d'entendre ce qu'il y a dans ma conscience pour un entendement renouvelé. Il dit, comment faire alors? Dans Colossiens 1, 8, je lis à partir du verset 9, c'est écrit comme ça. C'est pour cela aussi que nous, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté et toute sagesse et intelligence spirituelle. Ça, c'est quand tout va bien et qu'on arrive à un niveau tel qu'on a tellement entraîné notre homme intérieur qu'on devient intelligent spirituellement. À cause de la voix qui est à l'intérieur de nous, à cause de l'entraînement de notre esprit, on devient intelligent spirituellement. Et la sagesse aussi est là. Il y a une autre manière aussi, c'est écrit dans Éphésiens 5. « Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. » Quand quelqu'un conduit la louange, les chants commencent, l'Église chante. On est en train de s'unir en communion et le Seigneur commence à se mouvoir. Le Saint-Esprit descend et touche les cœurs et renouvelle la vie des gens. Et notre homme intérieur est renouvelé. C'est ce qui se passe quand quelqu'un qui conduit la louange est conduit par le Saint-Esprit. Mais ça peut être aussi pas être conduit. Mais le but de Dieu, c'est qu'on s'exerce. On doit exercer notre homme intérieur. Dans Hébreux 5, c'est écrit comme ça. « Or, quiconque qui est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. » La définition de la conscience, il y en a plusieurs qui a été dite, mais je prends le deuxième dans le dictionnaire. Ça dit tout simplement savoir juger par rapport, discerner le bien et le mal. Discerner le bien et le mal. Quand votre conscience est renouvelée, c'est ça que la Bible appelle des hommes mûrs. Et c'est ces gens-là qui peuvent manger la nourriture solide. Il dit, pour ceux dont le jugement est exercé, par l'usage à discerner ce qui est bien ou ce qui est mal. La Bible appelle cela exercer vos sens, exercer le discernement, chercher ce qui est bien ou ce qui est mal. C'est exercer le discernement dans notre homme intérieur. Il fut un temps, dans le tabernacle, les gens ne pouvaient pas exercer le discernement parce que c'était encore la voix de la loi qu'ils entendaient. Et c'est ce qui est dit en fait dans le Hébreux 9, tant que la voix de la loi criait encore comme ça fort, tant que cela subsistait, leur conscience était morte. Leur conscience ne pouvait pas encore discerner. Mais il a fallu que Jésus vienne. À un moment donné, Jésus vient avec son sang et il purifie notre conscience. Et quand notre conscience est purifiée, c'est là que la voix devient limpide dans notre esprit. Ce qu'il y a aussi, c'est que Dieu a choisi aussi une autre manière de faire. Donc, nous savons qu'il y a eu la loi. Après la loi, donc, on parle bien là du tabernacle. On parle aussi après de la venue de Jésus. Mais dans Ézéchiel 36 et 37, dans Jérémie 31 à 33, Dieu parle, j'enlèverai le cœur de pierre et je mettrai à la place un cœur de chair. Un jour, Jésus arrive sur une place et le peuple amenait une femme surprise en adultère. Alors, je vais le lire, c'est mieux. C'est dans Jean 8, si vous voulez suivre. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et la plaça au milieu du peuple. Ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous ordonnait à lapider de telles femmes. Toi donc, qu'est-ce que tu dis ?» Là, c'est la loi. La loi dit « lapidez-la ». On n'a pas d'autre choix. Si on écoute la voix de la loi, on doit lapider cette femme. Pourquoi ? Parce qu'elle est prise en flagrant délit. Et la loi dit qu'on doit la lapider. La voix qui parle là, c'est « tuez-la ». C'est la seule voix qu'on entend. Et il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Là, Jésus, sur cette situation, il n'a pas énormément de choix. Parce que la seule voix qu'on entend, là, c'est « lapidez-la, tuez-la ». Je continue la lecture. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit « Que celui qui est sans péché jette la première pierre contre elle. » Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit « Que celui de vous qui est sans péché jette la première pierre contre elle. » Il leur dit cela, en fait. Ce qu'il veut dire vraiment dans leur pensée, c'est que vous êtes tellement légaliste, tellement pris dans votre loi, que vous n'êtes pas capable de discerner le bien et le mal. Vous n'êtes pas capable d'entendre d'autres choses. Il n'y a que le son de « tuez-la, lapidez-la, lapidez-la ». Alors il se baisse à nouveau. S'étant de nouveau baissé, il écrivit sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Jésus resta seul avec la femme. Jésus est venu plein de grâce, grâce par grâce. La loi dit « lapidez-la ». Mais toi qui es plein de grâce, toi qui es venu avec ton sang, toi qui es venu pour purifier toute chose, qu'est-ce que tu dis d'une femme qui a été prise en faute d'adultère ? Dieu. Et c'est là qu'on entre dans le « j'enlèverai le cœur de pierre et je mettrai la place un cœur de chair et j'écrirai mes lois sur leur cœur. » Cœur de pierre, la loi doit être enlevée, car de chair, la conscience doit être restaurée, et là vous connaîtrez mes voies. Mais alors que Jésus écrivait sur le sable, pendant qu'il écrivait, la conscience des hommes commençait à s'éveiller. Il se passait quelque chose sur cet endroit. Et tout d'un coup, ils n'entendaient plus « Tu ne commettras pas d'adultère » dans leur conscience. Tout d'un coup, ils commencent à réaliser qu'eux aussi, ils ont des péchés, ils ont des fautes. Alors que Jésus écrivait, la conscience des hommes est travaillée. Et tout d'un coup, ils se détournent et ils partent. Parce que leur conscience s'est réveillée. Tout d'un coup, ils prennent conscience que ce n'est plus la loi. Tout d'un coup, ils prennent conscience que c'est la voix de Dieu. Et tout d'un coup, ils écoutent l'homme intérieur qui dit, moi aussi, je suis dans l'erreur. La femme dont Jésus se lève et pose la question à la femme, où sont ceux qui t'ont accusé? Et la femme dit, je suis tout seul ici. Et Jésus est venu avec la grâce et il dit, s'il ne te condamne pas, moi non plus je ne te condamne pas. La grâce de Dieu. Si eux, ils ne te condamnent pas, moi aussi je ne te condamne pas. Le but de Dieu, c'est qu'on sert le Dieu vivant. Et pour cela, il nous donne d'être purifiés par le sang de l'agneau, d'être purifiés par le sang de Jésus-Christ. Notre rôle, ce n'est pas de mériter pour entendre la voix. Notre rôle, c'est accepter le sang. Je sais que c'est quelque chose qui est souvent difficile. Je parle d'ici en Europe. De ne pas payer le prix pour recevoir quelque chose. Alors que là, ça se passe parce que Jésus a fait le sacrifice. Le seul moyen pour toi d'entendre à l'intérieur de toi, c'est quand tu acceptes le sacrifice de Jésus. Tu as meilleur temps à accepter le sacrifice de Jésus parce que c'est le seul moyen pour toi d'entendre sa voix. À cause de sa voix, il peut t'aider pour ton ministère. Il peut t'aider quand tu pries. Il peut t'aider à te remplir de son esprit. Il peut t'aider dans toutes les situations. Jean a entendu la voix. Et cette voix était comme un son de trompette. Est-ce que quelqu'un ici parle le trompette? Est-ce que quelqu'un ici peut interpréter quand le son d'une trompette arrive et tu le reçois? Un jour, l'apôtre Paul marche avec tous ses compagnons. Et tout d'un coup, une voix vient du ciel. Tout le monde entend. Il tombe de cheval. Et tout le monde entend, mais eux, ce qu'ils entendent, c'est comme un bruit de tonnerre. Est-ce que quelqu'un parle le bruit de tonnerre ici? Est-ce que c'est possible que Dieu veuille s'adresser à une personne plus particulièrement? Et comment la personne fait? Tout ce qui est de Dieu, tout ce qui vient du Seigneur, ça s'interprète avec l'esprit. Parce que Dieu est esprit. Ceux qui l'adorent doivent adorer en esprit et en vérité. Le rocher a entendu Moïse. Les montagnes tremblent au son de la voix de notre Dieu. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. L'arbre a entendu Jésus. Le pain a entendu Jésus. Les poissons ont entendu Jésus. Les yeux ont entendu Jésus. La maladie a entendu Jésus. La mer, les éléments ont entendu Jésus. Les morts même ont entendu Jésus. Qu'est-ce qui est possible quand on entend la voix du Seigneur? Où est-ce qu'on peut aller? À quel niveau on peut marcher dans un ministère quand on entend la voix du Seigneur? Comment on fait si on n'entend pas la voix du Seigneur? Il ne reste plus que l'intellect, il ne reste plus que l'homme, il ne reste plus que la chair, il ne reste plus que le tabernacle. Mais en fait, Dieu est venu enlever ça et remplacer par le sang de Jésus. Et grâce par grâce pour qu'on puisse entendre la voix de Dieu. Jésus dit, mes brebis entendent ma voix. Jésus dit, demeure en moi. Moi dans le Père, toi en moi. Jésus faisait des œuvres sur la terre. Mais lui-même, il dit, c'est le Père qui fait les œuvres en moi. Ça veut dire que la voix du Père conduisait Jésus à chaque fois. Et pour nous, c'est la voix de Jésus qui doit nous conduire à chaque fois. Le mécanisme que je voulais dévoiler, c'était le fait que c'est le Romain 9.1, que Dieu parle dans ma conscience. Ma conscience est unie avec le Saint-Esprit et c'est ça la voix que j'entends. La voix de Jésus que j'entends, Dieu me parle dans ma conscience. C'est pas tout ce qui vient dans ma conscience qui vient de Jésus. Mais tout ce qui est purifié, tout ce qui est sanctifié, tout ce qui est exercé, c'est la manière dont Dieu enlève en fait la mort dans ma conscience. Qu'est-ce que je fais? Je dois faire de la place pour que Dieu puisse parler. Faire la même chose que Jésus. J'écris par terre. J'écris par terre. J'attends que la conscience s'éveille. Et tout d'un coup, la conscience s'éveille et la voix vient et je peux être conduit à nouveau. C'est ce que je fais quand je conduis la louange. C'est ce que j'essaie de faire quand je prêche. Mais là, je me perds dans mes notes. Merci Seigneur. Je vais juste prier. Père, merci. Merci parce que tu as un Dieu qui parle. Merci parce que tu es un Dieu vivant. Merci pour ton Esprit Saint. Et merci pour le sacrifice de Jésus-Christ. Père, aujourd'hui, si quelqu'un ici n'entend plus la voix de Dieu, si quelqu'un ici se sent séparé de la voix de Dieu, Père, maintenant, je te demande d'étendre ta grâce. Je te demande la puissance du sang de Jésus-Christ qui va visiter sa conscience. Je te demande que ça se passe maintenant. Père, je prie pour que notre intelligence soit renouvelée, qu'on puisse exercer notre homme, être intérieur. Merci Seigneur pour l'œuvre de ton Esprit Saint, parce que c'est ton Esprit qui fait tout cela en nous. Je prie maintenant, Père, je prie pour que tu renouvelles l'esprit de quelqu'un. Je prie, Père, pour que tu redonnes vie à la conscience de quelqu'un. Je prie pour que les consciences s'éveillent maintenant au nom de Jésus, afin d'entendre la voix de Dieu, afin de servir le Dieu vivant. Seigneur, je te remercie. Je te remercie pour tout ce que tu as fait. Je te remercie pour ton œuvre ici au milieu de nous. Merci Seigneur. Amen. Amen.
C'est vrai que souvent on se demande, mais comment faut entendre la voix de Dieu? Et avec ce qu'on vient d'entendre ce matin, pour moi, ça me parle tellement que c'est pas à l'extérieur. Quand je prie, il faut pas que je prie en avant en me disant que Dieu, il est quelque part par là. Mais je prie en regardant ce que j'ai à l'intérieur. Prendre la conscience, Saint-Esprit, tu es en moi. Déjà accueillir sa présence, s'arrêter. Et ça, je crois vraiment que c'est une clé. Je crois vraiment que c'est une clé qu'il faut saisir. De pas prier quelque part dans les nimbes, mais prendre conscience de la présence de Dieu en nous. Ça fait toute la différence et ça nous aide aussi à ne pas prier dans l'agitation. Juste s'arrêter, prendre conscience de la présence de Dieu.